Alors, on va continuer sur le prophète Osée avec ce titre, Un réveil douloureux. Avec cette image d'un film connu et assez burlesque, Very Bad Trip, où finalement ça commence avec un enterrement de vie de garçon. Et quand il se réveille le matin. Ils savent plus ce qui s'est passé et au fur et à mesure, ils se rappellent que dans la nuit, ils ont fait absolument n'importe quoi et que ce qui avait bien commencé, eh bien, finit fortement mal. Et c'est ce qui va un petit peu arriver au peuple d'Israël, en tout cas dans la description que le prophète Osée va lui faire. Donc on va lire dans Osée 8 et dans Osée 9, mais on va commencer avec Osée 8, les versets 1 à 6. Embouche donc le corps, c'est comme un aigle sur le pays de l'Éternel, car ils ont violé mon alliance et ils ont transgressé ma loi. Ils crient vers moi, ô toi notre Dieu, nous te connaissons. Mais Israël a rejeté le bien. C'est pourquoi l'ennemi le poursuivra. Il a choisi des rois, mais sans me consulter. Il a nommé des chefs, sans mon approbation. Il a utilisé son or et son argent pour se fabriquer des idoles qui causeront sa perte. Ton veau, ô Samarie, je le rejette. Oui, contre toi, ma colère s'est enflammée. Combien de temps encore seras-tu incapable de pureté? Car ton veau, il vient d'Israël. Un artisan l'a fait, il n'est pas Dieu. Il sera mis en pièces, le veau de Samarie. Il faut comprendre ces paroles, et pour comprendre ces paroles, il faut un petit peu d'histoire, un petit peu des notions d'histoire d'Israël. La première notion, vous l'avez déjà parce qu'on en a parlé hier, c'est que nous avons des rois illégitimes. C'est ce que le prophète Osée dit ici. Les rois, je ne les ai pas choisis. On ne m'a pas consulté avant de les nommer. Pour la bonne et simple raison que sur les 6 rois, il y en a 4 qui ont été placés là, enfin qui se sont placés là eux-mêmes en assassinant leurs prédécesseurs. Donc forcément, ils n'ont pas forcément demandé l'avis de l'Éternel avant d'assassiner leurs prédécesseurs, même si j'imagine qu'ils trouvaient ça logique. Mais ce sont des rois illégitimes. Dieu dit au peuple que ce n'est pas normal d'avoir agi comme ça, c'est pas avec des coups d'État qu'on glorifie Dieu. Le deuxième reproche qui est fait ici, c'est un reproche concernant les veaux de Samarie. Et c'est beaucoup moins bien sur l'estrade. Voilà, comme ça c'est bien. Et pour comprendre cette allusion aux veaux de Samarie, il faut connaître l'histoire première, finalement, du royaume du Nord. Et donc, il faut aller dans le premier livre des rois, au chapitre 12, à l'époque de Jéroboam 1, là, Osée est sous Jéroboam 2, à l'époque de Jéroboam 1, quand le royaume du Nord, donc là, fait sécession avec, par rapport au royaume du Sud, de Juda. Après le règne de Salomon, le fils de Salomon n'est pas très judicieux. Et les 10 tribus du Nord eh bien, disent bah, « on ne veut plus être sous le joug du roi de Juda ». Ils font sécession, ils sont sous Jéroboam 1 et normalement Dieu a validé cela. Hein. Dieu a dit à Jéroboam « si tu fais tout ce que je te dis, ça va bien se passer. Le royaume d'Israël va aussi prospérer ». Mais Jéroboam a peur. A peur pourquoi ? Parce que au moins 3 fois par an, pour les 3 grands pèlerinages, les gens de son royaume sont obligés de descendre dans le royaume de Juda, à Jérusalem, pour adorer au temple. Ils y vont avec des animaux, avec de l'argent, ils y vont, voilà, c'est une sorte de transfert de fonds qui est de son royaume, qui va vers le royaume du Sud. Finalement, le royaume du Nord, le royaume d'Israël, a son centre de gravité dans le royaume du Sud. Et ça, Jéroboam, ça lui fait peur. Il a peur qu'au final, on le renverse, que finalement, on revienne à un grand royaume et que les gens reviennent dans une fidélité à Judas. Et parce qu'il a peur, parce que justement il ne veut plus que les gens de son royaume aillent en pèlerinage à Jérusalem, il se dit, je vais construire un culte local. Je vais déplacer le culte du temple dans mon royaume. Mais il a un problème, c'est qu'il n'a pas de temple. Alors du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire deux veaux d'or. Deux veaux d'or, l'un à Dan, vraiment au nord de son pays, et l'autre à Bethel, au sud du pays. Comme ça, un au nord, un au sud, tout le monde peut aller dedans, peut aller adorer Dieu à ces lieux-là, dans ces lieux-là. Et il paraphrase même Aaron dans le désert en disant « Voici ton Dieu qui t'a délivré Samarie. » Voilà, c'est les veaux d'or qui t'ont délivré. Alors bien sûr, ils n'ont pas conscience de sombrer dans l'idolâtrie. Ils veulent juste, ils veulent simplement dire, bah voilà, le Dieu qui nous a délivré va être caractérisé, va être visible sous la forme de ces veaux d'or. Mais bien sûr, vous l'avez compris, même si pour eux ce n'était pas vraiment de l'idolâtrie, pour Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et ils croient adorer Dieu. Je le répète, il croit adorer Dieu. Mais bien sûr, ce veau d'or, qui est en fait un taureau, hein, avec des grandes cornes, avec des beaux attributs, si vous voyez ce que je veux dire, qui symbolise finalement la force de la nature. C'était aussi le symbole de Baal, ce veau. Donc il confondait un petit peu les deux. Dieu leur dit, vous m'adorez avec ces veaux d'or, mais ça ne fait rien. Je vous rejette. Je vais les détruire, ces veaux. C'est l'œuvre d'un artisan, ce n'est pas la mienne. Et d'ailleurs, si vous regardez bien dans ma loi, je vous ai interdit de faire une image de moi. Pardon, hop. Connaissent-ils Dieu? C'est ça la vraie question, parce qu'ils leur disent, hein, ils disent à Dieu au verset 2, « Oh, toi, notre Dieu, nous te connaissons. » Et là, nous voyons avec les deux premiers points, des coups d'État permanents, des veaux qui servent à adorer Dieu. On voit que bah, ils ne le connaissent pas. Mais le truc qui est dingue, c'est qu'ils croient le connaître. Ils ont le sentiment de faire partie de son peuple. Et là, Dieu en fait les réveille en disant « Vous croyez que vous faites partie de mon peuple, mais je vous rejette. » Réveil douloureux, very bad trip. Verset 7. Ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Blé sans épi ne produira pas de farine, et même s'il en produisait, ce sont des étrangers qui la dévoreraient. Oui, Israël a été dévoré. Le voici désormais au milieu des nations, comme un objet indésirable. Car lui, il est allé s'adresser à Assour. Un onagre sauvage garde sa liberté. Mais les gens d'Éphraïm ont été achetés par des amants. Mais ils ont beau faire des présents aux nations, je vais les rassembler, et ils dépériront très bientôt sous le joug du roi des princes. Assour, au verset 9, c'est le dieu officiel des Assyriens. Assour, Assyrien, c'est la même racine. C'est le dieu principal qui est adoré à Ninive. Et on voit hein, que les Israélites ne sont pas allés s'adresser directement au dieu Assour. Mais comme je vous l'ai déjà dit hier, puisqu'ils demandent l'aide des Assyriens, puisqu'ils veulent coopérer avec l'Empire assyrien, forcément, ça veut dire qu'ils coopèrent avec le dieu des Assyriens. Qu'ils adoptent, quelque part, le dieu des Assyriens. Et ils sont coupables de faire ça. Les amants dont il est question, ce sont les nations auxquelles ils font appel, notamment les Assyriens. Et c'est un petit peu l'histoire de Faust qui se déroule sous nos yeux avec Israël. Vous connaissez l'histoire de Faust. Faust est un artiste raté qui n'arrive pas à produire une œuvre satisfaisante. Et pour produire cette œuvre satisfaisante, pour réussir là où il tout ce qu'il entreprend, eh bien, il passe un pacte avec le diable. Et le diable lui envoie un de ses agents qui s'appelle Méphistophélès, qui est ici. Qu'est-ce qu'il est beau. Il a l'air bien méchant. Méphistophélès, qui est là pour accomplir tous les desseins, tous les projets de Faust. Et toute sa vie, Faust, en fait, du coup, a du succès. Ça se passe bien. Et là, pour le coup, il a du succès avec les femmes, notamment. Et donc, pendant 24-25 ans, ça se passe bien. Et puis, après, il meurt. Et dans le pacte, c'est que son âme va en enfer. Parce que le pacte, c'est que dans la vie, ça va bien aller. Mais par contre, son âme appartient maintenant au diable. Eh bien, c'est un peu cette histoire-là avec Israël. Ils pensent que par leur tactique géopolitique, par leur tactique militaire, ils vont s'en sortir. Et finalement, ça se marche bien. Ça marche très très bien. Mais l'Éternel leur dit que finalement, ils vont être un petit peu perdus au milieu des nations comme un objet indésirable. Verset 8. Ils croient être importants, mais finalement ce sont des objets indésirables au milieu des nations. Ils ont été achetés par leurs amants, alors qu'en fait, finalement, ils croient avoir acheté une sécurité de la part du royaume assyrien. Mais c'est eux qui ont été achetés. Et bientôt, ils tomberont esclaves du roi des princes, au verset 10. Et le roi des princes, eh bien, c'est le roi d'Assyrie. Et finalement, on a affaire à une sorte d'esclavage progressif. Au départ, on n'a pas l'impression d'être esclave, et petit à petit, on se rend compte. Et Osée fait la comparaison entre Israël et un onagre sauvage. Voici un onagre sauvage, c'est une sorte d'âne sauvage qui était assez répandu à l'époque. Et il leur fait quand même une comparaison pas très très gentille. C'est-à-dire qu'un âne sauvage garde sa liberté. Il ne se laisse pas attraper facilement. Il est jaloux de sa liberté. Eh bien toi, Israël, t'es même pas un âne sauvage. Tu t'es laissé acheter. Tu t'es dit, oh là là, mais c'est pas grave. C'est pas grave si je suis maintenant dépendant d'un autre royaume. Mais finalement, en fait, tu n'as plus aucune liberté à la fin. C'est un esclavage bien sûr politique, mais je le répète, c'est aussi un esclavage spirituel. Puisque petit à petit, le culte païen s'est inséré dans les rangs du peuple d'Israël, jusqu'à ce que finalement la confusion soit totale. Ils adorent bien sûr leur dieu historique, mais ils adorent aussi les autres dieux. Et c'est ce que nous allons voir avec l'autre partie à partir du verset 11. Le peuple d'Éphraïm multiplie les autels pour y offrir des sacrifices pour le péché. Ils ne lui ont servi qu'à pécher davantage. Et si j'écris pour lui de nombreux articles de loi, il les regarde comme si cette loi lui était étrangère. Les victimes qu'on m'offre, eux, il les sacrifie pour en manger la viande. L'Éternel ne les agrée pas. Désormais, il fera le compte de leurs fautes et il les châtiera pour leurs iniquités. Ils retourneront en Égypte. Oui, Israël a oublié celui qu'il a créé. Et il s'est construit des palais. Juda a fortifié des quantités de villes. Mais j'y mettrai le feu qui consumera leurs palais. Ici, nous voyons une situation finalement de prospérité. Avec des palais. Beaucoup de palais, beaucoup de villes, on est riche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et là, on parle de sacrifices qui sont dans la loi de Moïse. Donc, ils profitaient de leur richesse pour faire de nombreux sacrifices. Mais, nous sommes face à un énothéisme. C'est le mot du jour. Énothéisme, c'est-à-dire qu'on garde un dieu principal, l'Éternel, mais on en met plein d'autres autour, dans une sorte de panthéon, pour être sûr finalement que voilà, on sacrifie à assez de dieux et que du coup on a une triple assurance d'avoir le salut. Donc un dieu principal avec d'autres dieux secondaires. Ce qui permet finalement d'entretenir la confusion. On continue d'être le peuple de l'Éternel. On adore l'Éternel. Oui, mais l'Éternel leur dit, vous adorez aussi les autres. Et vous m'adorez mal. Vous m'adorez selon vos propres fantasmes. Pas selon ma loi. Le culte est loin, très loin d'être conforme. Puisque Osée leur dit, vous offrez des sacrifices pour le péché. Très bien. Les sacrifices pour le péché, c'est fait pour qu'on soit pardonné de ses péchés. Mais pourquoi est-ce qu'ils offrent les sacrifices pour les péchés? C'est afin de pécher davantage. Bon, donc ça vient totalement contredire le truc de départ. Mais en plus, quand on offre des sacrifices, normalement, la plupart des sacrifices, l'adorateur n'y prend pas part, ne mange pas une partie de la bête. C'est souvent, parfois ce sont des holocaustes, ils sont brûlés entièrement, donc personne ne profite de la bête sinon l'Éternel. Parfois, ce sont les prêtres qui prennent une partie de la bête et le reste est brûlé. Parfois, c'est un partage entre tout le monde. Mais là, le reproche que leur fait l'Éternel, c'est que vous faites des sacrifices. Mais c'est, en fait, pour en manger la viande. C'est-à-dire, en fait, finalement, vous avez construit une sorte de boucherie, et vous faites un culte à côté de la boucherie, mais en fait, le but, c'est quand même la boucherie. Le but, c'est que vous bouffiez, en fait. Le but, c'est de faire la fête. Donc, ils essaient un peu de manger, finalement, à tous les râteliers, de gagner sur tous les tableaux. On fait un culte à l'Éternel, mais en même temps, on mange. Ils se servent du culte pour se faire plaisir. Et du coup, l'Éternel n'agrée pas ces sacrifices. Et il leur dit, donc, puisque ces sacrifices ne sont pas conformes, maintenant, je vais faire le compte de vos péchés. Ça ne marche pas. Je n'efface pas l'ardoise. Maintenant, ça s'accumule, la dette. Et ça va mal se passer, parce qu'à force de s'accumuler, eh bien, je vais accomplir mes menaces qui sont dans la loi. Je vais vous virer. Mais, pour l'instant, et il faut vraiment appuyer là-dessus, pour l'instant, le peuple va très bien. Matériellement parlant. Ils vont très bien. Ils sont riches. En bonne santé. Mais la ruine est prochaine. La ruine est vraiment prochaine. Puisque à la fin du verset 14, il leur dit, vos beaux palais, vos fortifications de ville, qui font votre sécurité, eh bien, j'y mettrai le feu. La suite, chapitre 9, en entier, s'il vous plaît. Ne te réjouis pas, Israël. N'exulte pas de joie comme les autres peuples. Car tu as délaissé ton Dieu pour te prostituer. Et sur toutes les aires où l'on procède au battage du blé, tu as aimé le salaire de la débauche. Mais l'air et le pressoir ne les nourriront pas. La récolte de vin sera bien décevante. Ils n'habiteront plus dans le pays de l'Éternel. Éphraïm reprendra le chemin de l'Égypte et ils devront manger des aliments impurs en Assyrie. Ils ne verseront plus de vin en libation pour l'Éternel. Ils n'offriront plus de sacrifice qui lui soit agréable. Leur nourriture sera comme un repas de deuil. Ceux qui en mangeront se rendront tous impurs. Leur pain ne servira que pour leur subsistance. Mais il n'entrera pas dans le temple de l'Éternel. Que ferez-vous alors aux jours d'assemblée cultuelle et pour les fêtes de l'Éternel? Car les voilà qui partent à cause de la destruction. L'Égypte les recueillera, Memphis les ensevelira, les orties prendront possession de leurs trésors précieux et les ronces croîtront dans leurs habitations. Le voilà arrivé, le temps du châtiment. Ils sont venus. Les jours du règlement des comptes, sache-le, Israël.
Mais il est fou, le prophète.
Référence à une pub. L'homme qui a l'esprit divague. Tes fautes abondantes en sont la cause, ainsi que cette hostilité qui vous anime. Mais moi, la sentinelle d'Éphraïm, moi le prophète, je suis avec mon Dieu. Vous me tendez des pièges partout sur mon chemin et vous m'êtes hostile dans le pays de mon Dieu même. Ils sont profondément enfoncés dans la corruption, comme ils l'étaient jadis au jour de Gibéa. Mais Dieu leur demandera compte de leurs péchés. Il châtiera leurs fautes. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Ce que décrit le prophète ici, c'est un exil. Puisque vous vous êtes mal conduit, vous allez retourner en Égypte. Alors on se dit, ah bon, ils vont retourner en Égypte. Et en fait, on sait que c'est une image pour dire qu'ils vont aller en exil en Assyrie. Et voici le voyage qu'ils ont fait. Donc là, vous avez Samarie. Et ils vont faire un voyage de quelques milliers de kilomètres, enfin de quelques centaines de kilomètres quand même, jusqu'à Ecbatane, aux frontières du royaume. Donc ils vont être très très loin de leur terre. Et à leur place, comme ça se faisait à l'époque, l'empereur assyrien va mettre d'autres populations de son empire pour les remplacer. Comme ça, ça évite d'avoir des révoltes, puisque les peuples ne sont pas sur leur terre, donc ils n'ont pas tellement envie de la défendre. Mais on leur a donné, ils sont bien dedans. D'ailleurs, le mélange entre finalement les Israélites qui sont quand même restés et les autres peuples va donner, quelques siècles plus tard, un peuple du temps de Jésus qu'on va appeler les Samaritains. Mais en tout cas, le châtiment annoncé par Osée va se passer quelques années plus tard, en 722. Samarie va tomber. Le royaume d'Israël ne sera plus et ne sera jamais reconstruit. En tout cas, dans le châtiment qui est décrit par le prophète Osée, nous avons décrit une impureté officielle. On est passé d'un culte qui était impur, mais que les Israélites croyaient pur, à une impureté officielle, c'est-à-dire que Dieu, finalement, leur dit « Officiellement, je vais vous virer, et officiellement, vous ne pourrez plus me faire des sacrifices. » Et quand on lit ça, on a l'impression que Dieu est soulagé. Enfin, vous allez arrêter avec ces sacrifices pourris, que vous croyez bons, mais qui sont nuls. Enfin, vous allez arrêter. Les repas que vous allez prendre, ce ne seront plus des repas sacrificiels, ce seront des repas de deuil. Des repas qui, selon la loi de Moïse, sont officiellement impurs. Comme ça, il n'y a plus de confusion. Comme ça, on est clairement dans l'impureté. Et c'est pas que Dieu se réjouisse de l'impureté, mais il se réjouit surtout qu'en fait son peuple soit officiellement reconnu comme impur et qu'il arrête sa comédie de se croire pur et de se croire conforme à la loi de Moïse alors qu'il ne l'est pas. C'est ça, un des avantages de l'exil. Mais la réaction du peuple, c'est de dire « Mais t'es complètement fou, Osée. Qu'est-ce que tu nous fais ? Ça va très très bien ! L'Éternel nous bénit !» Et il le dit en fait sur à côté du pressoir ou sur les aires de battage du grain, eh bien vous vous prostituez, c'est-à-dire que il voue un culte à Baal. Et en fait pour eux Baal et Dieu ça se confond quoi. Alors, dernièrement on avait, je pense que c'était hier, on avait lu qu'il se faisait des incisions, un peu comme les prophètes que Élie avait combattus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il fait une sorte de battle avec tous les prophètes, il se faisait souvent des incisions, ils entraient un petit peu en transe pour invoquer Baal, pour que Baal bénisse les récoltes. Mais les gens disent, mais Osée, les récoltes vont très très bien, nous sommes très très riches, Dieu est content. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Mets des lunettes, il est fou Osée, il est fou. Référence à une pub. Bon, on s'en fout. Et on voit que Osée se plaint parce que il leur dit dans mon pays même, on me tend des pièges. C'est-à-dire qu'on veut le faire taire parce qu'il démoralise la population alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Et là, Osée prend au verset 9 un argument tiré d'une comparaison. Il leur dit, vous êtes profondément enfoncé dans la corruption, comme vous l'étiez avant à Gibéa. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Gibéa ? C'est une histoire absolument délicieuse qu'on a dans le livre des juges, juge 19, d'un prêtre, enfin d'un lévite, officiellement, d'un lévite. C'est toute une histoire, mais bref, un lévite arrive avec sa femme dans cette ville de Gibéa, et quelqu'un les accueille. Et très vite, on toque à la porte, et beaucoup, enfin un groupe de personnes de la ville disent à l'hôte, est-ce que tu peux faire sortir le lévite qui est chez toi, parce qu'on voudrait abuser de lui. Et le gars dit, non, c'est un lévite, faut pas toucher à lui. Alors ils essaient de trouver une solution. Alors finalement, ils prennent la femme du lévite et puis ils la mettent dehors. Au début, le gars d'ailleurs propose d'ailleurs sa femme à la place, mais ils veulent pas. Donc, enfin bref, on propose au final la femme du lévite. Et donc ils la violent toute la nuit. Une histoire vraiment à ne pas raconter aux enfants. Et à la fin, il la laisse morte au pas de la porte, sur le pas de la porte. De l'hôte qui habite à Gibéa. Et le lévite, qui est bien sûr horrifié par cela, décide de faire un geste fort pour prévenir tout Israël de ce qui se passe à Gibéa. Il découpe sa femme en 12 morceaux et il envoie chacun des morceaux aux tribus d'Israël pour leur dire « Regardez ce qui s'est fait à Gibéa, dans la tribu de Benjamin. » Parce que la tribu de Benjamin ne veut pas châtier la ville de Gibéa. Du coup, les 11 tribus se liguent contre Benjamin et organisent une sorte de grand massacre pour châtier la tribu de Benjamin qui ne veut pas expulser le péché d'en dehors d'elle. Si vous voulez les détails, vous pouvez aller voir sur creusantlabible.fr. Il y a un top 5 des passages les plus trash de la Bible. Et c'est pas illustré. Enfin, c'est juste illustré avec un... Enfin bref, vous allez voir. Avec du sang sur le mur. Mais... Gibéa, en fait, finalement, c'est le symbole de l'état spirituel d'Israël. En fait, franchement, dans le top 5 des passages les plus trash, c'est la première histoire, quoi. C'est l'histoire la plus trash de la Bible. Et Osée dit à ce peuple prospère qui se croit très bien, eh ben finalement, vous êtes comme les gens de Gibéa. Et ils ont... Comment ? Oh, l'insulte, ouais, exactement. Et je pense qu'ils ont très bien compris le message. Ceci est un virus. Et ce que j'aimerais tirer comme enseignement de ce passage, c'est que un virus ne rend pas malade immédiatement. Et le péché en Israël est comme un virus, qui a commencé un siècle et demi avant, sous Jéroboam. Et là, en fait, sous Jéroboam II, Osée dit que le virus s'est propagé, a métastasé, si vous voulez. Et ça va mal se passer, la maladie va se déclarer, et la fin est proche. Et le premier enseignement que j'aimerais tirer de ce passage, c'est qu'il est possible de réussir sans Dieu. On le voit, hein, vous le voyez, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, vous voyez que vous avez des amis, vous avez peut-être des proches qui réussissent très très bien sans Dieu. Et donc il est totalement possible d'être... heureux, en tout cas en superficie, d'être prospère financièrement, affectivement, sans Dieu. C'est largement possible et la Bible ne prétend absolument pas qu'il n'y avait qu'avec le Dieu d'Israël que ça va bien. La sorte d'évangile de la prospérité est un évangile complètement stupide et faux. Puisque dans la Bible on voit des gens très fidèles à qui il arrive beaucoup de problèmes, et des gens totalement infidèles, où ça va très très bien. Il est possible de réussir sans Dieu. Mais le problème, en fait, c'est qu'avec Israël, il est possible de réussir sans Dieu tout en croyant qu'on est avec Dieu. C'est un véritable problème, parce qu'il y a une confusion là-dedans. Ils y croient, eux. Et on se demande, du coup, quand on lit ces histoires... Et peut-être que vous demandez ça depuis le début de la semaine, quand vous lisez Osée, ou quand, je sais pas, vous lisez des passages de l'Ancien Testament, où vous voyez le peuple qui fait n'importe quoi, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que Dieu ne châtie-t-il pas ? C'est joli, hein, à dire. Tout de suite. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il il foudroie pas les coupables comme ça ? Eh bien, parce qu'il est patient. parce qu'il veut aussi faire une œuvre à l'intérieur de ce peuple. Il veut démontrer son amour. Il veut démontrer aussi parfois sa puissance. Il veut aussi que le peuple se rende compte lui-même de ses péchés. Et aussi, il veut parfois que ce soit visible, que malgré tous les signes qu'il donne, le peuple a le cœur endurci. Et que même si le peuple ne veut pas l'avouer, eh bien, dans les faits, ça se démontre que le peuple ne veut pas revenir. Mais le Seigneur, dans ses attributs, est patient, lent à la colère. Il envoie des prophètes. Et on l'a vu hier, quand il dit au peuple, « Je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai massacré par les paroles de ma bouche, si vous vous rappelez bien. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous sauver. » On ne peut pas accuser Dieu, quand on le dit tout cela, de ne rien avoir fait pour son peuple. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et je pense que c'est un grand enseignement pour nous. Parce que, du coup, nous, sous la Nouvelle Alliance, eh bien, nous pouvons voir ce que ça donne quand on est sous l'Ancienne. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand on a juste une révélation comme ça, une loi à suivre, eh bien, on ne peut pas se dire, bah, finalement, on peut le faire par nous-mêmes. On voit qu'Israël avait tout. Ils ont quand même eu en Israël les deux prophètes les plus puissants de l'histoire, Élie et Élisée. Et ça n'a rien changé. On peut mettre toutes les preuves, on peut faire tous les miracles qu'on veut. L'homme a le cœur beaucoup trop endurci pour se tourner vers Dieu. Il faut que Dieu l'extirpe de la glu, de la boue, du péché. C'est obligatoire. Et ça nous démontre ça. Ça nous démontre que l'homme est foncièrement mauvais. C'est pour ça que Dieu ne le châtie pas tout de suite. Parce qu'il fait en sorte que chacun ait plein de signes différents sur la durée, sur les générations, que Dieu est fidèle et que Dieu est puissant. Mais de toute façon, même s'il est lent à la colère finit par arriver s'il n'y a pas de changement. Et du coup, au niveau des applications, la question que nous pouvons nous poser, si nous voulons nous identifier un petit peu à Israël, est-ce que le culte que nous offrons à l'Éternel est un véritable culte? Ou est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que nous adorons le vrai Dieu ou le fantasme d'un Dieu imaginaire que nous nous serions fabriqués? Parce que l'idolâtrie, c'est un renversement. On part d'un Dieu qui a créé l'homme à son image, et l'idolâtrie fait que l'homme crée un Dieu à son image. Est-ce que nous avons un vrai culte ou est-ce que nous effectuons ce renversement-là? Mais c'est vraiment une question que nous devons nous poser. Parce que finalement, les grosses ambiances parfois que nous avons dans nos cultes, les fortants spirituels que nous pouvons vivre peuvent être uniquement le fruit en tout cas de nos émotions, le fruit de quelques ingrédients comme ça qui marchent partout, qui peuvent marcher dans un meeting politique, qui peuvent marcher dans une secte, qui peuvent marcher pour une autre religion. Entrer en transe par exemple, c'est un truc qui est commun à plein de religions. C'est pas, il n'y a pas en transe, ce que je veux dire, c'est être saisi par l'esprit, hein, nous on le dit ça comme ça. Mais c'est pas que chez les chrétiens que ça peut se faire, ça peut se faire à peu près partout. Une sorte d'adoration comme ça, oh là là, oui, je sens que je suis appelé à faire ça, je sens que Dieu me parle, tout ça, mais ça, il y a plein de religions aussi qui le font. Les meetings nazis, point Godwin, les meetings nazis, était comme ça. Les gens étaient en transe en entendant Goebbels, en entendant Hitler. C'est possible d'être dans un état, comme ça, un état où on se sent comme ça, inspiré, et c'est pas du tout une inspiration, c'est possible. Alors c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Je veux pas non plus vous empêcher de dormir, mais il faut que nous nous posions quand même cette question. Et pour que vous dormiez bien, je vous donne quand même la solution. Un test en tout cas. Pour savoir si vous adorez Dieu ou un fantasme, c'est que si vous lisez la parole de Dieu, eh bien vous êtes en mesure de savoir si votre culte est un culte. Est-ce que vous obéissez à Dieu ? Est-ce que vous vous remettez en question ? Est-ce que vous êtes repentant ? Et est-ce que Dieu est satisfait de ce que vous faites ? Eh bien, en fait, vous pouvez lui demander. Je pense que c'est super, parce qu'en fait, si on ne se fabrique pas un Dieu à notre image, eh bien, on demande à ce Dieu-là qui est en nous, mais qui est aussi le Seigneur de l'univers, on peut lui demander aussi honnêtement, de nous dire si il est satisfait de notre vie, et attendre sincèrement une réponse, un signe de sa part, ou aussi demander à d'autres personnes de nous le dire. C'est aussi une très bonne idée, parce que du coup, nous avons quand même, comme ça, plein de points de vue différents pour nous dire finalement si nous faisons la comédie ou pas. Et il est possible de s'abuser soi-même. Israël s'est abusé lui-même. Deuxième application, ce serait la dernière. Nous sommes dans un monde mystique et syncrétiste qui va très bien. Syncrétiste, c'est un monde finalement qui mélange plein d'idéologies, plein de religions différentes, qui met ça dans un shaker, qui secoue, puis qui se fabrique un petit cocktail personnel de religions. Vous avez sûrement des amis qui sont comme ça, qui croient à plein de trucs, c'est pas logique, c'est du grand n'importe quoi, mais en fait ça leur plaît parce que finalement ça leur correspond. Ça correspond souvent à leur névrose, à leur fantasme. Et en fait ce monde va très très bien sans l'Éternel lui aussi. Et nous, en fait, on arrive et puis on casse un peu l'ambiance en disant « Bah non, en fait, ce que vous adorez, c'est pas le bon truc, en fait. Nous, on adore le vrai Dieu. » Et des fois, on se met un peu dans la position d'oser où, en fait, on nous dit « Mais t'es complètement fou. Ma vie va très, très bien sans ton Dieu-là. » En fait, si Jésus, c'est le Seigneur, qu'il se révèle à moi, ou en tout cas, qu'il fasse en sorte que j'ai besoin de lui, mais là, moi, j'ai même pas besoin de lui. J'ai pas besoin de lui. J'ai ma petite religion personnelle, comme ça, qui me va très bien. Et c'est là où il faut que, là encore, hein, nous soyons persuadés que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, que nous sommes vraiment pleinement heureux en lui, que nous sommes sauvés en lui, et que nous ayons le courage de le dire, bien sûr de manière adaptée, mais déjà, en fait, plus j'avance dans la vie chrétienne et dans le ministère, et plus je me dis, plus je vois que c'est une question de conviction personnelle d'abord. D'accord, c'est pas facile de dire. D'accord, en fait, le terrain n'est pas propice à ce qu'on annonce l'évangile. Parfois. Mais en fait, la plupart du temps, si on n'annonce pas l'évangile, c'est qu'on a honnêtement l'impression que nos amis sont très heureux sans Dieu, qu'ils sont pleinement heureux sans Dieu, et qu'on n'a rien d'intéressant à leur dire. Ceci est un mensonge. Pour toute personne, ceci est un mensonge. Ils ont tous besoin de Jésus, et au fond d'eux, ils sont malheureux. Si vous dites le contraire, ils s'abusent eux-mêmes, ou ils mentent, mais ceci est faux. Vous avez une solution à leur proposer, et le bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Soyez vraiment persuadés de ça. Celui que nous avons à présenter, qui est notre ami, qui est notre sauveur, peut les combler. Et finalement, le problème, c'est que c'est une question de référentiel. Ils n'ont pas le bon référentiel. Ils ont l'impression qu'ils ont atteint un point assez sympa, quoi. Genre, ils sont à 14 sur 20 au niveau du bonheur. Ils se disent, ça va pas mal. Et en fait, nous, on est à 19, 20 sur 20. Mais ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'il y a des paliers au-dessus, des paliers supérieurs. Et nous le savons parce que nous sommes passés par leur état. Et en fait, nous savons que, hop là, il y a une sorte de félicité céleste qui s'est emparée de nous. Et on est tellement heureux de connaître Jésus. Mais il faut que déjà, nous, on en ait conscience. Et après, il faut leur dire. Mais si on n'en a pas conscience, vous pouvez dire ce que vous voulez. En fait, ils ne vous croiront pas. Et vous ne persévérerez pas. Osez a persévéré avec Israël. Il a persévéré. Même si on lui a tendu des pièges, même si on lui a dit « t'es fou », même si on lui a démontré par A plus B qu'il y avait la prospérité et que ça servait à rien, ce qu'il disait qu'en fait finalement le culte était le bon culte et qu'il avait tort, oser à persévérer. Et nous sommes les nouveaux osés. Il faut oser parler de la part du Seigneur. Les prophètes de ce temps, ce sont nous. C'est nous les chrétiens, finalement, qui doivent annoncer l'évangile, incarner l'évangile. Alors vraiment, si vous avez un regard critique sur vous-même, sur votre culte, si vous voulez vraiment servir le Seigneur tel qu'il est, si vous vous rendez compte d'à quel point il est extraordinaire, eh bien vous allez aussi naturellement aller vers les autres et leur parler de lui plusieurs fois en persévérant. Vous allez prier pour eux et le Seigneur agira. C'est tout ce que je vous souhaite. Amen.